VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à Bangui. Bienvenue à notre journal. Au Burundi, le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a désigné dimanche le général Évariste Ndayishimiye comme son porte-étendard à la présidentielle du 20 mai. Le candidat tentera de succéder au président sortant Pierre Nkurunziza, dont il est très proche. Le point avec Jacques Aristide.
Le général a été nommé par un congrès extraordinaire du CNDD-FDD à Gitega, la nouvelle capitale administrative du pays, en présence du chef de l'État. Évariste Ndayishimiye n'a pas manqué de rendre un hommage très appuyé à Pierre Nkurunziza, celui qu'il appelle son frère d'armes. À 55 ans, le président au pouvoir depuis 2005 ne va donc pas être candidat. Son annonce, il y a moins de 2 ans, avait pris tout le monde de court, alors que la nouvelle constitution le lui permettait. À 52 ans, le général Ndayishimiye, ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et actuel secrétaire général du parti au pouvoir, est considéré comme l'un des hommes clés du système qui dirige aujourd'hui le Burundi, pays plongé dans une grave crise politique due au troisième mandat de Pierre Nkurunziza, entamé il y a 4 ans et demi. La Cour pénale internationale a fait état de 1200 morts et plus de 400 000 déplacés entre avril 2015 et mai 2017. La CPI a ouvert une enquête.
En République centrafricaine, une vingtaine de morts et un certain nombre de blessés dimanche. Tel est le bilan d'affrontements intercommunautaires à Bria, dans le centre-est du pays. 3 ethnies rivales se sont affrontées dans cette localité. Compte rendu de notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Tout a commencé le samedi 25 janvier aux environs de 17h. Une altercation entre 2 membres des ethnies Goula et Runga se solde par un mort et un blessé. Des armes tournent pendant à peu près 2 heures et un calme apparent s'installe. Le dimanche 26 janvier à 5h du matin, des tirs à l'arme lourde et légère réveillent la population et la panique devient générale. Les membres des ethnies Goula et Yulu affrontent ceux de l'ethnie Runga, chaque parti étant affilié à des groupes armés de l'ex-coalition rebelle Seleka. Les combats qui ont duré plusieurs heures auraient fait plus d'une vingtaine de morts, des dizaines de blessés et des maisons incendiées, rapportent des sources locales contactées par VOA Afrique. Le député de Bria, Arsène Kombo, appelle le gouvernement et la MINUSCA, la force de l'ONU, à une action rapide afin de contenir les violences. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Le combat anti-djihadiste dans le Sahel maintenant. La France espère que les États-Unis maintiendront leur soutien logistique dans la lutte antiterroriste au Sahel aux côtés de la force française Barkhane. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Nous espérons qu'ils prendront conscience que l'enjeu du terrorisme se passe aussi là et seront suffisamment lucides pour garder ce partenariat, a souligné le chef de la diplomatie française, alors que les États-Unis ont récemment prévenu qu'ils entendaient réduire leur présence militaire en Afrique. Pour sa part, la ministre française des Armées, Florence Parly, va tenter aujourd'hui, ici à Washington, de convaincre son homologue américain Mark Esper de ne pas retirer à la France ce soutien crucial dans la lutte que les troupes françaises mènent depuis près de 7 ans contre les groupes djihadistes au Sahel. Les États-Unis veulent réduire les moyens consacrés depuis 2 décennies à la guerre antiterroriste pour concentrer leurs efforts sur les menaces constituées par la Chine et la Russie. Au Sahel, Washington apporte avec ses bases au Niger un soutien significatif aux 4700 soldats français de l'opération Barkhane en matière de logistique, de ravitaillement et surtout de surveillance avec des drones équipés d'un système d'interception des communications qu'ils sont à ce jour les seuls à pouvoir fournir. Sur le terrain même, au Mali, une 20aine de militaires maliens ont été tués et des dizaines d'autres blessés suite à une nouvelle attaque des djihadistes dimanche matin contre un camp de gendarmes dans le centre du pays. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Sokolo est une localité dans le cercle de Niono, région de Ségou. Pour la quiétude des populations, les forces armées maliennes FAMA ont mis un détachement de la gendarmerie. C'est ce détachement qui a été attaqué par des hommes lourdement armés, évoluant sur des véhicules et des motos. Les combats ont commencé à 5h du matin pour s'achever à 7h. Le bilan provisoire côté FAMA, une 20aine de soldats tués, dont 14 regroupés sur place au niveau de leur position, et 4 autres en dehors du camp. Des blessés graves ont été transportés au centre de santé communautaire par les populations. Les assaillants ont emporté des véhicules et des armes avant de ramasser tous leurs corps. Après cette attaque, les FAMA ont rendu les honneurs militaires funèbres aux personnels qui ont trouvé la mort lors de cette attaque à Sokolo. Les 20 corps ont été enterrés hier après-midi. Les forces armées maliennes ont immédiatement commencé les ratissages. À Bamako, le président Ibrahim Boubacar Keïta a convoqué un conseil extraordinaire de défense et de sécurité. Rien n'a filtré pour le moment de cette rencontre de haut niveau avec la hiérarchie militaire. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au reste, en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, les autorités sanitaires disent avoir détecté un cas suspect de coronavirus à l'aéroport d'Abidjan, un cas en provenance de la Chine. Les détails avec notre correspondante à Bouaké, Aïcha Diarra.
Il s'agit d'une étudiante ivoirienne de 34 ans vivant à Pékin depuis 5 ans. Elle rentrait samedi à Abidjan à bord de la compagnie Turkey Airlines en provenance de la dite ville en Chine. Professeur Joseph Beignet Bivreau est le directeur général de l'Institut d'hygiène publique de Côte d'Ivoire.
Nous avons récupéré cette patiente depuis l'arrivée jusqu'au niveau de la cellule pandémique qui est sise au niveau de l'aéroport en vue d'un diagnostic et puis surtout en vue des prélèvements qui ont été faits.
Quant à l'état actuel de santé de la patiente, il rassure.
Nous l'avons vu ce matin, elle se porte bien, la situation est stable et nous attendons avec beaucoup d'impatience, je dirais, les résultats de ces examens de prélèvement de gorge qui a été fait par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire.
Toujours selon lui, on ne peut donc pas parler pour l'heure de cas en Côte d'Ivoire.
Il s'agit d'une suspicion. Pour le moment, on n'a pas à s'alarmer jusqu'à ce que les examens nous en donnent la preuve formelle.
Les autres passagers de l'avion ont systématiquement été recensés et seront suivis pendant une période de 15 jours. Aïcha Diarra à Bouaké pour VOA Afrique.
Au Sénégal, l'État a annoncé un plan de développement solidaire et inclusif pour l'accès universel aux services de base à l'horizon 2025. Un plan qui suscite une ruée vers les zones urbaines, nous dit notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay.
À Dakar, les habitants n'ont pas tous un accès total aux services. Dans certains quartiers comme Warouaï, l'on manque de tout. Nene Fofana, l'une des premières habitantes du quartier, liste les difficultés qu'il traverse depuis une décennie.
Quand je venais ici, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, ni école, ni marché. Les véhicules n'avaient pas accès à la cité. On était obligés de marcher jusqu'à la cité Gadaï pour avoir une voiture et rallier Gedjawaï. L'accès ici était très difficile à cause des agressions. Moi-même qui vous parle, j'ai été victime d'agression 3 fois. Mais aussi mes 2 enfants ont été victimes d'agression. Dieu merci, l'année dernière, lors de la campagne électorale, l'État a satisfait quelques de nos doléances.
Si les habitants ont finalement eu accès à quelques commodités comme l'électricité, l'accès à l'eau demeure un problème majeur et les femmes sont les principales victimes. Astobari raconte leur calvaire quotidien.
Il est difficile d'avoir l'accès à l'eau. Nous, les femmes, nous mesurons à quel point il est difficile d'avoir de l'eau. Moi qui vous parle, j'achète de l'eau à 25 francs la bouteille et chaque jour, je dépense plus de 500 francs pour mon approvisionnement en eau. C'est très difficile. À défaut d'avoir une charrette pour transporter l'eau, nous la portons nous-mêmes. On n'a que 2 robinets pour toute la cité. Il n'y a pas d'eau dans les foyers. Les 2 robinets se trouvent dans la rue. Nous implorons aux autorités de nous aider à avoir l'accès en eau dans les maisons.
Du côté des autorités municipales, on affirme que des programmes sociaux sont en cours d'étude pour permettre aux populations d'avoir des conditions de vie meilleures. C'est ce qu'indique Abdoulaye Ba, conseiller technique du maire de la commune de Ndiarem Limamoulay.
La commune a un programme d'essayer de cartographier la pauvreté multiforme au niveau des 22 quartiers. Peut-être après cela, si réellement on a cette maîtrise, là, le maire pourra apporter des solutions correctes. Parce que la pauvreté souvent n'est pas monétaire. Maintenant, on veut vraiment maîtriser cette pauvreté-là au niveau de la commune de Ndiarem-Limamoulay pour voir qu'est-ce qu'il faut faire ou améliorer par rapport au déficit des populations.
Au Sénégal, l'accès universel aux services de base est un combat quotidien pour les populations. Pour y remédier, le gouvernement a lancé un plan de développement qui devrait assurer la couverture totale de ses besoins à l'horizon 2025. À Dakar, Sidina Bagui pour VOA Afrique.
Et pour terminer, ici aux États-Unis, les femmes de la NBA et le championnat américain de basketball, le monde du sport et les Américains en général sont sous choc. Kobe Bryant, légende des Los Angeles Lakers et un des plus grands champions de l'histoire du basket, est mort dimanche à 41 ans dans un accident d'hélicoptère. 9 personnes au total ont péri dans cet accident qui a coûté la vie au basketteur et à sa fille Gianna dimanche à Calabasas, dans le sud de la Californie.